Gigonnet vint ouvrir lui-même, et les deux parrains du parfumeur, en lice dans le champ des faillites, traversèrent une première chambre correcte et froide, sans rideaux croisés. Tous trois s'assirent dans la seconde, où se tenait l'escompteur devant un foyer plein de cendres, au milieu desquels le bois se défendait contre le feu. Popinot eut l'âme glacée par les cartons verts de l'usurier, par la rigidité monastique de ce cabinet aéré comme une cave. Il regarda d'un air hébété le petit papier bleuâtre semé de fleurs tricolores collé sur les murs depuis 25 ans et reporta ses yeux attristés sur la cheminée ornée d'une pendule en forme de lyre et de vases oblongs en bleu de Sèvres richement montés en cuivre doré. Cette épave, ramassée par Gigonnet dans le naufrage de Versailles où la populace brisa tout, venait du boudoir de la reine. Elle était accompagnée de deux chandeliers du plus misérable modèle en fer battu. « Je sais que vous ne pouvez pas venir pour vous, » dit Gigonnet, « mais pour le grand Birotteau. »« Eh bien, qu'y a-t-il, mes amis ?»« Je sais qu'on ne vous apprend rien, ainsi nous serons brefs, » dit Pierrot. « Vous avez des effets ordre Claparon ?»«
Oui. »«
Voulez-vous échanger les 50 premiers 1000 contre des effets de M. Popinot que voici, moyennant escompte, bien entendu ?» Gigonnet ôta sa terrible casquette verte, qui semblait née avec lui, montra son crâne couleur beurre frais, dénué de cheveux, fit sa grimace voltairienne et dit « Vous voulez me payer en huile pour les cheveux ? Qu'est que j'en ferai ?»«
Quand vous plaisantez, il n'y a qu'à tirer ses grègues, » dit Pierrot.
« Vous parlez comme un sage que vous êtes, » lui dit Gigonnet avec un sourire flatteur. « Eh bien, si j'endossais les effets de M. Popinot, » dit Pierrot en faisant un dernier effort.
« Vous êtes de l'or en barre, monsieur Pierrot, mais je n'ai pas besoin d'or, il me faut seulement mon argent. »
Pierrot et Popinot saluèrent et sortirent. Au bas de l'escalier, les jambes de Popinot flageolaient encore sous lui. « Est-ce un homme ? » dit-il à Pierrot.
« On le prétend, » fit le vieillard.
« Souviens-toi toujours de cette courte séance, Anselme. Tu viens de voir la banque sans la mascarade de ses formes agréables. » Les événements imprévus sont la vis du pressoir, nous sommes le raisin, et les banquiers sont les tonneaux. L'affaire des terrains est sans doute bonne, Gigonnet veut étrangler César pour se revertir de sa peau. Tout est dit, il n'y a plus de remède. Voilà la banque, n'y recours jamais. Après cette affreuse matinée, où pour la première fois, Madame Birotteau prit les adresses de ceux qui venaient chercher leur argent et renvoya le garçon de la banque sans le payer, à 11 heures, cette courageuse femme, heureuse d'avoir sauvé ses douleurs à son mari, vit revenir Anselme et Pierrot, qu'elle attendait en proie à de croissantes anxiétés. Elle lut sa sentence sur leur visage. Le dépôt était inévitable.
« Il va mourir de douleur, » dit la pauvre femme.
« Je le lui souhaite, » dit gravement Pierrot. « Mais il est si religieux que, dans les circonstances actuelles, son directeur, l'abbé Loraux, peut seul le sauver. »
Pierrot, Popinot et Constance attendirent qu'un commis fût allé chercher l'abbé Loraux avant de présenter le bilan que Célestin préparait à la signature de César. Les commis étaient au désespoir, ils aimaient leur patron. À 4 heures, le bon prêtre arriva, Constance le mit au fait du malheur qui fondait sur eux, et l'abbé monta comme un soldat monte à la brèche.
« Je sais pourquoi vous venez !» s'écria Birotteau.
« Mon fils, » dit le prêtre, « vos sentiments de résignation à la volonté divine me sont depuis longtemps connus, mais il s'agit de les appliquer. Ayez toujours les yeux sur la croix, ne cessez de la regarder en pensant aux humiliations dont le Sauveur des hommes fut abreuvé, combien sa passion fut cruelle. Vous pourrez supporter ainsi les mortifications que Dieu vous envoie. »
« Mon frère l'abbé m'avait déjà préparé, » dit César, en lui montrant la lettre qu'il avait relue et qu'il tendit à son confesseur.
« Vous avez un bon frère, » dit Monsieur Loraux, « une épouse vertueuse et douce, une tendre fille, deux vrais amis, votre oncle et le cher Anselme, deux créanciers indulgents, les Ragon. Ces bons cœurs verseront incessamment du baume sur vos blessures et vous aideront à porter votre croix. Promettez-moi d'avoir la fermeté d'un martyr, d'envisager le coup sans défaillir. »
L'abbé toussa pour prévenir Pierrot qui était dans le salon.
« Ma résignation est sans borne, » dit César avec calme. « Le déshonneur est venu. Je songe à la réparation. »
La voix du pauvre parfumeur et son air surprirent Césarine et le prêtre. Cependant, rien n'était plus naturel. Tous les hommes supportent mieux un malheur connu, défini, que les cruelles alternatives d'un sort qui, d'un instant à l'autre, apporte ou la joie excessive ou l'extrême douleur.
J'ai rêvé pendant 22 ans. Je me réveille aujourd'hui, mon gourdin à la main, dit César, redevenu paysan tourangeau.
En entendant ces mots, Pillerault serra son neveu dans ses bras. César aperçut sa femme, Anselme et Célestin. Les papiers que tenait le premier commis étaient bien significatifs. César contempla tranquillement ce groupe où tous les regards étaient tristes, mais amis.
« Un moment, » dit-il, en détachant sa croix qu'il tendit à l'abbé Loraux. « Vous me la rendrez quand je pourrai la porter sans honte.
Célestin, » ajouta-t-il en s'adressant à son commis, « écrivez ma démission d'adjoint. Monsieur l'abbé vous dictera la lettre, vous la daterez du 14 et la ferez porter chez monsieur de la Billardière par Raguet. »
Célestin et l'abbé Loraux descendirent. Pendant environ un quart d'heure, un profond silence régna dans le cabinet de César. Sa fermeté surprenait sa famille. Célestin et l'abbé revinrent, César signa sa démission. Quand l'oncle Pillerault lui présenta le bilan, le pauvre homme ne put réprimer un horrible mouvement nerveux.
« Mon Dieu, ayez pitié de moi » dit-il en signant la terrible pièce et la tendant à Célestin.
« Monsieur, » dit alors Anselme Popineau, sur le front nuageux duquel il passa un lumineux éclair, « Madame, faites-moi l'honneur de m'accorder la main de mademoiselle Césarine. »
À cette phrase, tous les assistants eurent des larmes aux yeux, excepté César qui se leva, prit la main d'Anselme et, d'une voix creuse, lui dit « Mon enfant, tu n'épouseras jamais la fille d'un failli. » Anselme regarda fixement Birotteau et lui dit « Monsieur, vous engagez-vous, en présence de toute votre famille, à consentir à notre mariage, si mademoiselle m'agrée pour mari, le jour où vous serez relevé de votre faillite ?»
Il y eut un moment de silence pendant lequel chacun fut ému par les sensations qui se peignirent sur le visage affaissé du parfumeur.
« Oui, » dit-il enfin.
Anselme fit un indicible geste pour prendre la main de Césarine, qui la lui tendit, et il la baisa.
« Vous consentez aussi ?» demanda-t-il à Césarine.
« Oui, »
dit-elle. « Je suis donc enfin de la famille. J'ai le droit de m'occuper de ses affaires, » dit-il, avec une expression bizarre.
Anselme sortit précipitamment pour ne pas montrer une joie qui contrastait trop avec la douleur de son patron. Anselme n'était pas précisément heureux de la faillite, mais l'amour est si absolu, si égoïste. Césarine elle-même sentait en son cœur une émotion qui contrariait son amère tristesse.
« Puisque nous y sommes, » dit Pillerault à l'oreille de Césarine, « frappons tous les coups. »
Madame Birotteau laissa échapper un signe de douleur et non d'assentiment. « Mon neveu, » dit Pillerault en s'adressant à César, « que comptes-tu faire ?»«
Continuer le commerce ?»«
Ce n'est pas mon avis, » dit Pillerault. « Liquide et distribue ton actif à tes créanciers. Ne reparais plus sur la place de Paris. Je me suis souvent supposé dans une position analogue à la tienne.
Ah, il faut tout prévoir dans le commerce. Le négociant qui ne pense pas à la faillite est comme un général qui compterait n'être jamais battu. Il n'est négociant qu'à demi.
Moi, je n'aurais jamais continué.
Comment ? Toujours rougir devant des hommes à qui j'aurais fait tort, recevoir leurs regards défiants et leurs tacites reproches. Je conçois la guillotine. Un instant et tout est fini. Mais avoir une tête qui renaît et se la sentir couper tous les jours est un supplice auquel je me serais soustrait. Beaucoup de gens reprennent les affaires comme si de rien n'était. Tant mieux, ils sont plus forts que Claude-Joseph Pillerault. Si vous faites au comptant, et vous y êtes obligé, on dit que vous avez su vous ménager des ressources. Si vous êtes sans le sou, vous ne pouvez jamais vous relever. Bonsoir, abandonne donc ton actif, laisse vendre ton fonds et fais autre chose.
« Mais quoi ?» dit César.
« Eh, dit Pillerault, cherche une place. N'as-tu pas des protections ? Le duc et la duchesse de Lenoncourt, madame de Mortsauf, monsieur de Vandenesse, écris-leur, vois-les, ils te caseront dans la maison du roi avec quelques milliers d'écus. Ta femme en gagnera bien autant, ta fille peut-être aussi. La position n'est pas désespérée. À vous trois, vous réunirez près de 10 000 francs par an. En 10 ans, tu peux payer 100 000 francs. Car tu ne prendras rien sur ce que vous gagnerez,
tes deux femmes auront 1500 francs chez moi pour leurs dépenses, et quant à toi, nous verrons. »
Constance, et non César, médita ces sages paroles. Pillerault se dirigea vers la bourse, qui se tenait alors sous une construction provisoire, en planches et en pans de bois, formant une salle ronde où l'on entrait par la rue Feydeau. La faillite du parfumeur en vue et jalousée, déjà connue, excitait une rumeur générale dans le haut commerce, alors constitutionnel. Les commerçants libéraux voyaient dans la fête de Birotteau une audacieuse entreprise sur leurs sentiments. Les gens de l'opposition voulaient avoir le monopole de l'amour du pays. Permis aux royalistes d'aimer le roi, mais aimer la patrie était le privilège de la gauche. Le peuple lui appartenait. Le pouvoir avait eu tort de se réjouir, par ses organes, d'un événement dont les libéraux voulaient l'exploitation exclusive. La chute d'un protégé du château, d'un ministériel, d'un royaliste incorrigible, qui le 13 Vendémiaire insultait la liberté en se battant contre la glorieuse Révolution française, cette chute excitait les cancans et les applaudissements de la bourse. Pillerault voulait connaître, étudier l'opinion. Il trouva dans un des groupes les plus animés, Du Tillet, Gobenheim-Keller, Nucingen, le vieux Guillaume et son gendre Joseph Lebas, Claparon, Gigonnet, Mongenot, Camusot, Gobseck, Adolphe Keller, Palma, Chiffreville, Matifat, Grindot et Lourdois. « Eh bien, quelle prudence ne faut-il pas ?» dit Gobenheim à Du Tillet. « Il n'a tenu qu'à un fil que mes beaux-pères n'accordassent un crédit à Birotteau. » Moi, j'y suis de 10 000 francs qu'il m'a demandé il y a 15 jours. Je les lui ai donnés sur sa simple signature, dit Du Tillet. Mais il m'a jadis obligé, je les perdrai sans regret. Il a fait comme tous les autres, votre neveu, dit Lourdois à Pillerault. Il a donné des fêtes. Qu'un fripon essaie de jeter de la poudre aux yeux pour stimuler la confiance, je le conçois. Mais un homme qui passait pour la crème des honnêtes gens, recourir aux roueries de ce vieux charlatanisme auquel nous nous prenons toujours? « Comme des bêtes !» dit Gobseck. « N'ayez confiance qu'à ceux qui vivent dans des bouges, comme Claparon, » dit Gigonnet. « Eh bien !» dit le gros baron Nucingen à Du Tillet. « Vous savez folie, me chouer à une tire en m'envoyant Pirodeau. Je ne sais pas pire quoi, » dit-il en se tournant vers Gobenheim, le manufacturier, « et n'a pas envoyé prendre chez moi 50 000 francs. Je les lui aurais remises. » « Oh non !» dit Joseph Lebas. « Monsieur le baron, vous deviez bien savoir que la banque avait refusé son papier. Vous l'avez fait rejeter dans le comité d'escompte. L'affaire de ce pauvre homme, pour qui je professe encore une haute estime, offre des circonstances singulières. » La main de Pillerault serrait celle de Joseph Lebas. « Il est impossible, en effet, dit Mongenot, d'expliquer ce qui arrive, à moins de croire qu'il y ait, caché derrière Gigonnet, des banquiers qui veulent tuer l'affaire de la Madeleine. » Il lui arrive ce qui arrivera toujours à ceux qui sortent de leur spécialité, dit Claparon en interrompant Mongenot. S'il avait monté lui-même son huile céphalique, au lieu de venir nous renchérir les terrains dans Paris en se jetant dessus, il aurait perdu ses 100 000 francs chez Roguin, mais il n'aurait pas failli. Il va travailler sous le nom de Popinot.
Attention à Popinot, dit Gigonnet.
Roguin, selon cette masse de négociants, était l'infortuné Roguin. Le parfumeur était ce pauvre Birotteau. L'un semblait excusé par une grande passion, l'autre semblait plus coupable à cause de ses prétentions. En quittant la bourse, Gigonnet passa la rue Perrin-Gasselin avant de revenir rue Greneta et vint chez Madame Madou, la marchande de fruits secs.
« Ma grosse mère, lui dit-il avec sa cruelle bonhomie, eh bien, comment va notre petit commerce ?»«
À la douce !» dit respectueusement Madame Madou, en présentant son unique fauteuil à l'usurier, avec une affectueuse servilité qu'elle n'avait eue que pour le cher défunt. La mère Madou, qui jetait à terre un charretier récalcitrant ou trop badin, qui n'eut pas craint d'aller à l'assaut des Tuileries au 10 octobre, qui goguenardait ses meilleures pratiques, capable enfin de porter sans trembler la parole au roi au nom des dames de la halle, Angélique Madou recevait Gigonnet avec un profond respect. Sans force en sa présence, elle frissonnait sous son regard âpre. Les gens du peuple trembleront encore longtemps devant le bourreau. Gigonnet était le bourreau de ce commerce. À la halle, nul pouvoir n'est plus respecté que celui de l'homme qui fait le cours de l'argent. Les autres institutions humaines ne sont rien auprès. La justice elle-même se traduit aux yeux de la halle par le commissaire,
personnage avec lequel elle se familiarise. Mais l'usure, assise derrière ses cartons verts, l'usure implorée et la crainte dans le cœur, dessèche la plaisanterie, altère le gosier, abat la fierté du regard et rend le peuple respectueux.
Est-ce que vous avez quelque chose à me demander, dit-elle?
Un rien, une misère. Tenez-vous prête à rembourser les effets Birotteau. Le bonhomme a fait faillite. Tout devient exigible. Je vous enverrai le compte demain matin.
Les yeux de Madame Madou se concentrèrent d'abord comme ceux d'une chatte, puis vomirent des flammes.
Ah, le gueux! Ah, le scélérat! Il est venu lui-même ici me dire qu'il était adjoint, me monter des couleurs. « Matigo, ça va comme ça le commerce. Il n'y a plus de foi chez les maires, le gouvernement nous trompe. Attendez, je vais aller me faire payer, moi. »
« Mais dans ces affaires-là, chacun s'en tire comme il peut, cher enfant, » dit Gigonnet en levant sa jambe, par ce petit mouvement sec semblable à celui d'un chat qui veut passer un endroit mouillé et auquel il devait son nom. Il y a de gros bonnets qui pensent à retirer leur épingle du jeu.
« Bon, bon, je vais retirer ma noisette. » Marie-Jeanne, mes socs et mon cachemire de poil de lapin, et vite, ou je te réchauffe la joue par une giroflée à 5 feuilles.
Ça va s'échauffer dans le haut de la rue, se dit Gigonnet en se frottant les mains. Du Tillet sera content, il y aura du scandale dans le quartier. Je ne sais pas ce que lui a fait ce pauvre diable de parfumeur. Moi j'en ai pitié comme d'un chien qui se casse la patte. Ce n'est pas un homme, il n'est pas de force. Madame Madou déboucha, comme une insurrection du faubourg Saint-Antoine, sur les 7 heures du soir à la porte du pauvre Birotteau, qu'elle ouvrit avec une excessive violence, car la marche avait encore animé ses esprits.
« Tas de vermine ! Il me faut mon argent ! Je veux mon argent ! Vous me donnerez mon argent ! Ou je vais emporter des sachets, des brimborions de satin, des éventails enfin de la marchandise pour mes 2000 francs ! A-t-on jamais vu des maires voler les administrés ? Si vous ne me payez pas, je l'envoie aux galères, je vais chez le procureur du roi. Le tremblement de la justice ira son train. Enfin, je ne sors pas d'ici sans ma monnaie. »
Elle fit mine de lever les glaces d'une armoire où étaient des objets précieux.
« La Madou prend !» dit à voix basse Célestin à son voisin.
La marchande entendit le mot, car dans les paroxysmes de passion, les organes s'oblitèrent ou se perfectionnent, selon les constitutions. Elle appliqua sur l'oreille de Célestin la plus vigoureuse tape qui se fût donnée dans un magasin de parfumerie.
« M'apprends à respecter les femmes, mon ange, dit-elle, et à ne pas chiffonner le nom de ceux que tu voles. »
« Madame, dit Madame Birotteau, sortant de l'arrière-boutique où se trouvait par hasard son mari que l'oncle Pierrot voulait emmener, et qui, pour obéir à la loi, poussait l'humilité jusqu'à vouloir se laisser mettre en prison.
« Madame, au nom du ciel, n'ameutez pas les passants. « Eh, qu'ils entrent, dit la femme. » « Je lui dirai la chose, histoire de rire. Oui, ma marchandise et mes écus ramassés à la sueur de mon front servent à donner vos balles. Enfin, vous allez vêtue comme une reine de France avec la laine que vous prenez à des pauvres ignots comme moi. Jésus, ça me brûlerait les épaules à moi du bien volé. Je n'ai que du poil de lapin sur ma carcasse. Mais il est à moi, brigand de voleur. Mon argent où ?»
Elle sauta sur une jolie boîte en marqueterie où étaient de précieux objets de toilette.
« Laissez cela, madame. » dit César en se montrant. « Rien ici n'est à moi. Tout appartient à mes créanciers. Je n'ai plus que ma personne, et si vous voulez vous en emparer, me mettre en prison, je vous donne ma parole d'honneur. » Une larme sortit de ses yeux, « que j'attendrai votre huissier et ses recors. »
Le ton et le geste en harmonie avec l'action firent tomber la colère de Madame Madou.
« Mes fonds ont été emportés par un notaire, et je suis innocent des désastres que je cause, » reprit César. Mais vous serez payé avec le temps. Dussé-je mourir à la peine et travailler comme un manœuvre à la halle en prenant l'état de porteur.
Allons, vous êtes un brave homme, dit la femme de la halle. Pardon de mes paroles, madame, mais faut donc que je me jette à l'eau, car Gigonnet va me poursuivre et je n'ai que des valeurs à 10 mois pour rembourser vos damnés billets.
Venez me trouver demain matin, dit Pierrot en se montrant. Je vous arrangerai votre affaire à 5% chez un de mes amis.
Tiens, c'est le brave père Pierrot.
Eh, mais il est votre oncle? Dit-elle à Constance.
« Allons, vous êtes d'honnêtes gens, je ne perdrai rien, n'est-ce pas ? À demain, vieux !» dit-elle à l'ancien quincaillier.
César voulut absolument demeurer au milieu de ces ruines, en disant qu'il s'expliquerait ainsi avec tous ses créanciers. Malgré les supplications de sa nièce, l'oncle Pierrot approuva César et le fit remonter chez lui. Le rusé vieillard courut chez M. Audry, lui expliqua la position de Birotteau, obtint une ordonnance pour une potion somnifère, l'alla commander
et revint passer la soirée chez son neveu. De concert avec Césarine, il contraignit César à boire comme eux. Le narcotique endormit le parfumeur qui se réveilla, 14 heures après, dans la chambre de son oncle Pierrot, rue des Bourdonnais, emprisonné par le vieillard qui couchait, lui, sur un lit de sangle dans son salon. Quand Constance entendit rouler le fiacre dans lequel son oncle Pierrot emmenait César, son courage l'abandonna. Souvent, nos forces sont stimulées par la nécessité de soutenir un être plus faible que nous. La pauvre femme pleura de se trouver seule chez elle avec sa fille, comme elle aurait pleuré César mort. « Maman, » dit Césarine en s'asseyant sur les genoux de sa mère et la caressant avec ces grâces chattes que les femmes ne déploient bien qu'entre elles, « tu m'as dit que si je prenais bravement mon parti, tu trouverais de la force contre l'adversité. Ne pleure donc pas, ma chère mère. Je suis prête à entrer dans quelques magasins et je ne penserai plus à ce que nous étions. Je serai comme toi dans ta jeunesse, une première demoiselle, et tu n'entendras jamais une plainte ni un regret. J'ai une espérance. N'as-tu pas entendu Monsieur Popineau ?»« Le cher enfant, il ne sera pas mon gendre. »« Oh, maman, il sera véritablement mon fils. » »« Le malheur, » dit Césarine en embrassant sa mère, « a cela de bon qu'il nous apprend à connaître nos vrais amis. » Césarine finit par adoucir le chagrin de la pauvre femme en jouant auprès d'elle le rôle d'une mère. Le lendemain matin, Constance alla chez le duc de Lenoncourt, un des premiers gentilshommes de la chambre du roi, et y laissa une lettre par laquelle elle lui demandait une audience à une certaine heure de la journée. Dans l'intervalle, elle vint chez monsieur de la Billardière, lui exposa la situation où la fuite du notaire mettait César, le pria de l'appuyer auprès du duc, et de parler pour elle, ayant peur de mal s'expliquer. Elle voulait une place pour Birotteau. Birotteau serait le caissier le plus probe, s'il y avait à distinguer dans la probité. Le roi vient de nommer le comte de Fontaine à une direction générale dans le ministère de sa maison. Il n'y a pas de temps à perdre. À 2 heures, la billardière et Madame César montaient le grand escalier de l'hôtel de Lenoncourt, rue Saint-Dominique, et furent introduits chez celui de ces gentilshommes que le roi préférait, si tant est que le roi Louis XVIII ait eu des préférences. Le gracieux accueil de ce grand seigneur, qui appartenait au petit nombre des vrais gentilshommes que le siècle précédent a légués à celui-ci, donna de l'espoir à Madame César. La femme du parfumeur se montra grande et simple dans la douleur. La douleur ennoblit les personnes les plus vulgaires, car elle a sa grandeur, et pour en recevoir du lustre, il suffit d'être vrai. Constance était une femme essentiellement vraie. Il s'agissait de parler au roi promptement. Au milieu de la conférence, on annonça Monsieur de Vandenesse, et le duc s'écria « Voilà votre sauveur !» Madame Birotteau n'était pas inconnue à ce jeune homme, venu chez elle une ou deux fois pour y demander de ses bagatelles, souvent aussi importantes que de grandes choses. Le duc expliqua les intentions de la billardière. En apprenant le malheur qui accablait le filleul de la marquise d'Uxelles, Vandenesse alla sur le champ avec la billardière chez le comte de Fontaine, en priant Madame Birotteau de l'attendre. Monsieur le comte de Fontaine était, comme la billardière, un de ces braves gentilshommes de province, héros presque inconnus qui firent la Vendée. Birotteau ne lui était pas étranger, il l'avait vu jadis à la Reine des Roses. Les gens qui avaient répandu leur sang pour la cause royale jouissaient à cette époque de privilèges que le roi tenait secrets pour ne pas effaroucher les libéraux. Monsieur de Fontaine, un des favoris de Louis XVIII, passait pour être dans toute sa confidence. Non seulement le comte promit positivement une place, mais il vint chez le duc de Lenoncourt, alors de service, pour le prier de lui obtenir un moment d'audience dans la soirée et de demander pour la billardière une audience de monsieur qui aimait particulièrement cet ancien diplomate vendéen. Le soir même, monsieur le comte de Fontaine alla des Tuileries chez madame Birotteau, lui annoncer que son mari serait, après son concordat, officiellement nommé à une place de 2500 francs à la caisse d'amortissement, tous les services de la maison du roi se trouvant alors chargés de nobles surnuméraires avec lesquels on avait pris des engagements. Ce succès n'était qu'une partie de la tâche de Madame Birotteau. La pauvre femme, à la rue Saint-Denis, au chat qui pelote, trouvait Joseph Lebas. Pendant cette course, elle rencontra dans un brillant équipage Madame Roguin, qui sans doute faisait des emplettes. Ses yeux et ceux de la belle notaresse se croisèrent. La honte que la femme heureuse ne put réprimer en voyant la femme ruinée donna du courage à Constance. « Jamais je ne roulerai carrosse avec le bien d'autrui, » se dit-elle. Bien reçue de Joseph Lebas, elle le pria de procurer à sa fille une place dans une maison de commerce respectable. Le bas ne promit rien, mais 8 jours après, Césarine eut la table, le logement et 1000 écus dans la plus riche maison de nouveautés de Paris, qui fondait un nouvel établissement dans le quartier des Italiens. La caisse et la surveillance du magasin étaient confiées à la fille du parfumeur qui, placée au-dessus de la première demoiselle, remplaçait le maître et la maîtresse de maison. Quant à Madame César, elle alla le jour même chez Popineau lui demander de tenir chez lui la caisse, les écritures et le ménage. Popineau comprit que sa maison était la seule où la femme du parfumeur pourrait trouver les respects qui lui étaient dus et une position sans infériorité. Le noble enfant lui donna 3 000 francs par an, la nourriture, son logement qu'il fit arranger, et prit pour lui la mansarde d'un commis. Ainsi, la belle parfumeuse, après avoir joui pendant 1 mois des somptuosités de son appartement, dut habiter l'effroyable chambre, ayant vu sur la cour obscure et humide, où Gaudissart, Anselme et Finot avaient inauguré l'huile céphalique.